On enregistre.
Et salut à tous et bienvenue dans cette 86e édition du podcast Elbakin.net. On est nombreux encore une fois autour de cette table pour discuter et je commence par Saffron. Coucou.
Bonsoir tout le monde.
Saffron, que vous pouvez retrouver dans notre itération métal des podcasts Elbakin, avec notamment le dernier numéro consacré à l'interview de Vincent Tassi, qui est notamment auteur, donc aux éditions du Chat Noir, aux éditions de Nemos, et également métalleux, parce que, je vous en parle beaucoup, mais métal et fantasy, ça fait souvent bon ménage. Donc vous pouvez retrouver cette émission de podcast sur toutes vos applis de podcast préférées. On a également celui qui va défendre, beaucoup défendre le sujet dont on va parler ce soir, Gitanas.
Bonsoir.
Voilà, on va avoir beaucoup besoin de toi, puisque on pense qu'il va y avoir matière à discussion. Nous avons également l'auteur du Nord avec nous ce soir, le sémillant Gilosen.
Bonjour, bonsoir à toutes et tous.
Nous attendons également Akalabes qui malheureusement a un problème de livebox, pour ne rien vous cacher. Donc problème de livebox is the new mon chien a mangé mon devoir, n'est-ce pas? Donc s'il apparaît, nous ne vous le signalerons. Et je suis bien entendu Giggs pour vous servir. Alors aujourd'hui, on va parler de la fantasy à papa, la fantasy à papy ou à mamie ou à maman. Bref, la fantasy classique, dite classique, qui sent bon les 80s, les années 80, 90, celle avec les elfes, les nains, la quête pour aller tuer le grand méchant. Eh ben, on s'est tout simplement demandé pourquoi cette fantasy-là, elle vivait un vrai regain d'intérêt de nos jours. Pourquoi est-ce qu'elle était aussi présente encore dans les rayonnages, dans les esprits, fût-elle littéraire ou alors dans les médias plus visuels? Et la question qu'on s'est posée en préparant ce numéro, au-delà d'une simple énumération de titres qui n'aurait pas vraiment d'autre intérêt que de jouer avec la nostalgie de vous, chers auditeurs, c'est tout simplement de s'interroger sur sa place, sur le marché international, sur le marché français, comment on voit également cette fantasy classique aujourd'hui, et surtout comment on l'utilise, comment on la représente à la fois du côté des créateurs, et comment on la consomme, comment on la voit, comment on la lit, on la regarde côté utilisateur, côté lecteur. Donc préparez vos ceintures, on vous embarque avec nous, c'est parti. Donc c'est quoi cette fantasy, à papy, alors parce que le au-delà du titre qui va nous faire un peu, la dénomination qui va nous faire un peu rire, comment on la perçoit, comment on la résume? C'est quoi sa définition? Et là, j'ai jeté un froid.
Non, mais je me permets d'intervenir et de remplacer AK, qui donc, n'est pas encore des nôtres. Je le rejoins un peu quand même sur ce qu'il disait, donc je me permets de m'approprier sa voix. Donc, il nous disait que pour lui, le style est plus important que l'époque d'origine, qui n'est donc pas forcément les années 80 que tu évoquais ou le début des années 90. Sa conception de ce genre de fantasy, c'est que c'est une fantasy de type high fantasy ou heroic fantasy. Là, je le rejoins, avec un style efficace qui se lit donc facilement et qui est, on peut dire, axé sur l'action. Qui se base sur des stéréotypes forts de la fantasy, comme le barbare à la Conan ou les espèces classiques comme les orques, les elfes, les nains. Donc on pourrait peut-être dire que le stéréotype de cette fantasy-là, ce sont les livres issus des univers type Donjons & Dragons, Warhammer, et que finalement, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer quand on évoque cet aspect nostalgique que tu mentionnais, ou les auteurs auxquels on peut penser, moi j'aurais cité des Terry Brooks ou des Raymond Fest, que finalement le lectorat est peut-être pas si âgé, pour pas dire qu'il est jeune. Et en même temps, Aka tient à tempérer cette estimation, on va dire, de l'âge du lectorat par rapport, on va dire, à la noirceur qu'on peut retrouver dans certains thèmes.
Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Gitanas?
Moi, ce qui m'interpelle déjà, c'est l'utilisation du terme stéréotype. À titre personnel, je définirais la fantasy à papa comme une fantasy d'archétype. C'est-à-dire qu'on va retrouver toujours le même schéma de la quête de l'orphelin. Alors, avec à chaque fois, je préfère dire tout de suite, des variations diverses et variées. Mais dans l'ensemble, c'est toujours un petit peu le même schéma qui revient. Donc surtout la notion de quête et de quête initiatique. Le héros doit se construire à travers son chemin etc. Avec un ou une sage qui va le guider, des compagnons plus ou moins là pour remplir des rôles comiques ou des rôles de confident ou des rôles amoureux. Des relations amoureuses très classiques. Hein. C'est... Comment on pourrait dire ça ? C'est l'amour missionnaire hein, dans la fantasy épique. Un grand méchant, un très important, un grand méchant. J'essaye. un grand méchant, une prophétie qui explique comment tuer le grand méchant. Et tout ça fait un genre qui est assez pérenne, parce que effectivement, ça remonte à il y a fort, fort longtemps. C'est même pour ça qu'on a hésité à l'appeler directement Fantasy à Papy, parce qu'au début, on parlait surtout de Fantasy à Papa. Personnellement, je la caractérise beaucoup comme ça sur le forum. Mais c'est vrai qu'en regardant bien, les papas des papas d'aujourd'hui lisaient déjà ça. Donc, c'est quelque chose qui est assez ancré et qui, et on va en discuter, mais qui a des tendances au renouvellement assez fluctuantes.
Assez fluctuantes, ça, effectivement, on va en discuter. Qu'en pense Akalabès/Gilosen ?
Tu veux dire ma propre pensée ?
Exactement.
C'est plus simple de rapporter les pensées des autres. Non, mais moi, c'est pour ça que je disais que j'étais quand même assez d'accord avec ce que faisait remarquer Aka, même si c'est vrai qu'on pourrait parler effectivement plus d'archétypes que de stéréotypes. Mais moi, j'imagine... Alors, c'est ce que j'ai fait remarquer un peu plus loin dans notre plan, mais je pense que je peux le glisser ici. C'est que pour moi, je me demande si finalement, c'est pas... Et on en parlera aussi après de cet aspect-là, enfin de cet autre aspect. Mais je me demande si c'est pas justement avant tout un rendez-vous en fait visuel quand on pense fantasy de ce genre, avec un côté, voilà, tout de suite des images très fortes, comme le disait Aka. Donc ça peut être soit un guerrier type Conan, soit des elfes ou des créatures, des dragons hein, typiquement. Et avant même de se pencher sur le contenu, en fait, c'est-à-dire que parfois tu peux avoir des œuvres qui essayent peut-être de jouer avec ces archétypes ou d'apporter quelque chose, des touches plus modernes, il y a quand même l'univers qui lui-même reste très typé, à mon sens, médiéval fantastique, comme on disait avant, hein, donc des univers vraiment quand même avant tout moyenâgeux, et avec plein de magie et de créatures.
Magique.
En tout genre, ouais. Mais oui, magique ou pas, ouais. Mais en tout cas, plein de créatures que tu croiserais pas au coin de la rue. Voilà.
Ok. Donc, finalement, est-ce qu'on pourrait pas dire que déjà, on va retrouver effectivement pas mal de choses au niveau des fameux archétypes dont vous venez de parler. Donc, on a parlé de la quête, effectivement, du côté médiéval, l'aspect médiévaliste qui va être hyper, hyper utilisé. C'est vrai que moi, j'imagine toujours ces histoires se passer dans la même plaine où il fait beau, en tout cas au moins au début. Mais c'est toujours la même plaine où l'herbe est toujours coupée et tout. Enfin, bref.
Le château a toujours la même tête, la taverne a toujours la même tête. Quand tu lis ce genre de bouquin, je suis tout à fait d'accord avec toi. Le décor est interchangeable, en fait.
C'est ça.
C'est peut-être éventuellement tu changes la tête des personnages et encore. Et au pire, tu as dans la tête le héros d'une adaptation que tu as vue à la télé ou au ciné. Et c'est les mêmes décors un peu qui, pour moi, font carton-pâte maintenant, en fait. Donc, et je dis carton-pâte rien qu'en les lisant, en fait. Et donc, je suis totalement d'accord avec Geeks. Ouais. La plaine est c'est toujours la même. C'est toujours la même taverne. C'est toujours le même château. C'est toujours les mêmes oubliettes. La même hutte du sorcier sage, machin. Et voilà, quoi.
C'est toujours le même climat. C'est toujours...
C'est ça.
On pourra aller loin. On voit Gildanas qui est en train de bouillir.
Alors,
heureusement qu'on est en visio, parce que sinon il y aura des morts. Hein.
je peux pas entièrement vous donner tort. Hein. toute la mauvaise foi que j'ai préparée pour ce soir, là, n'y suffit pas. Effectivement, il y a un effet de redondance. Après, je pense qu'il faut réussir à dissocier la production d'il y a 30-40 ans, qui là, effectivement, est quand même très, très marquée. Comme ce que vous dites, il y a un château qu'on a mis dans Shannara, qu'on a mis dans Woodkind, qu'on a mis dans La Roue du Temps, qu'on a mis, voilà.
C'est le Hollywood des années 50, tu sais, avec les studios.
C'est ça, c'est Cinecittà, là, je ne sais plus comme ils avaient à Rome. C'est ça. Et il y a aujourd'hui, où il y a des tentatives réelles, hein, j'en ai encore eu la preuve dans ma dernière lecture, d'apporter un petit peu de renouveau. Et je trouve que c'est assez intéressant parce que, on va aujourd'hui, on va tomber sur des auteurs qui sont ancrés dans ce schéma-là de fantasy épique classique. Donc, ils sont inconsciemment ou non obligés de se soumettre à une espèce de cahier des charges. Voilà, ils ont un petit bingo. Oh, j'ai un orphelin, je coche. J'ai une prophétie, je coche. Mais on va avoir des tendances à un petit peu d'originalité. Ça sera plus un orphelin, apprenti forgeron ou apprenti fermier. Ça sera un brigand. Ça sera, attention, une grosse nouveauté. Peut-être une fille. Ah là là. Et son mentor sera peut-être une femme. Voilà.
J'allais dire que tu étais presque en train de parler de Mistborn, mais de l'Empire Ultime de Sanderson, mais le mentor n'est pas une femme.
Et au moment où je dis ça, voilà les renforts qui arrivent. C'est magnifique.
Nous avons été rejoints par Akalabès.
Voilà, donc bonsoir, Akalabès.
Mais sans son.
Et donc des tentatives, on va dire, de modernisation, mais un petit peu à la marge, comme si c'était des patchs. Sur un jeu vidéo, ouais. On garde le corps, mais on tente des petites choses. Mais avec, et c'est vrai, une géographie toujours très occidentale. Hein. Il y a toujours le royaume central, les terres du sud qui sont peuplées de peuples, on va dire, sauvages, mais du désert. Et il y a au nord des sauvages du nord et de la glace. Voilà. Voilà, c'est effectivement, il y a des choses qui reviennent. Mais il faut aussi noter les efforts qui sont faits actuellement pour, on va dire, régénérer un petit peu le style.
Ouais, c'est ça, c'est ce que tu veux dire, c'est qu'en fait, tu vas avoir des redondances, mais qui vont quand même s'inscrire dans des époques. C'est que tu peux avoir effectivement ces redondances, mais ne plus avoir, on va dire, de problèmes de représentation aujourd'hui. Je crois que c'est Merwin qui, sur le forum, citait Wild. Bon, on va avoir l'occasion d'en reparler. Mais Wild, ça ne cherche pas à réinventer la roue et pourtant ça s'inscrit clairement dans notre époque actuelle, enfin j'allais dire année 2010-2020 quoi, enfin, les dernières décennies quoi.
Ouais, il y a aussi un petit côté parodique avec l'histoire des rock bands qui sont des groupes d'aventuriers.
Le truc c'est que pour moi, enfin moi quand Merwin a cité Wild, j'ai un peu les sourcils qui sont montés jusqu'à mes cheveux parce que pour moi ça rentre tellement pas dans cette catégorie là. J'ai l'impression en tout cas de ce que j'ai lu de ce qu'on appellerait de fantasy à papa que j'ai abandonné très très rapidement après quelques années de lecture de fantasy parce que ça commence à me passer au-dessus de la tête. J'ai l'impression que ce genre de littérature se prend très au sérieux, entre guillemets. Que Wild, c'est tellement une parodie, et accessoirement, c'est tellement surtout un hommage au rock, avant toute chose, que moi, en tant que fan de rock, je l'ai vu comme ça, en fait. Je l'ai vu comme un hommage au rock, et pas vraiment comme un truc de fantasy à papa. C'est tellement pas... C'est à la fois hyper sérieux et hyper parodique, Wild. Donc, je sais pas. Moi, je le faisais pas du tout rentrer dans cette catégorie-là.
Tu as lu le 2 ?
Bien sûr.
Et tu trouves pas que le 2, il est moins parodique, justement ?
Un petit peu moins, effectivement, je te l'accorde. Mais pour le coup, je vois encore moins dans celui-là les trucs de fantasy à papa.
Je suis assez d'accord avec ce que tu dis, Safrone, sur le côté on se prend quand même méga au sérieux parce que voilà, nous on va aller sauver le monde quoi.
Ah, c'est important quoi.
Bah, c'est sérieux. Faut de l'enjeu quand même. Ouais, hein. Si l'enjeu c'est d'aller sauver le chat de la voisine, franchement, pour attirer le lecteur, c'est compliqué.
Ça peut mener à de grandes choses, mais.
C'est ce qu'on appelle des enjeux macro, tu vois. C'est vraiment,
ouais, mais est-ce que c'est ça que tu recherches quand tu veux t'échapper et te divertir ?
Des enjeux micro ou des enjeux macro ?
Là, c'est bigger than life, quoi. Là, il faut aller sauver le monde, tuer le dieu millénaire qui est ressuscité, le dragon, que sais-je.
Ah, c'est sûr, voilà, que là, pour le coup, ça va être à l'opposé complet de ta vie.
Sauf que peut-être le chat de la voisine, voilà. En fait, c'est un sorcier qui a été transformé en chat, tu vois, enfin, tu peux pas savoir.
Tu sais pas,
mais effectivement, a priori, ce que vont vivre les héros va être quand même largement plus intéressant que ce que tu vis.
On a tous, à un moment donné, rêvé, attendu d'avoir sa lettre de Poudlard. Mais avant Harry Potter, est-ce qu'on n'a pas tous aussi rêvé d'avoir un vieux magicien qui venait taper à notre porte pour nous dire « tu es l'élu, tu vas sauver le monde ».
Ah non, non, non.
Tu aurais fait le 17.
Non, moi. Moi, j'aurais dit trop de lecture. Je suis désolée, je suis trop occupée. J'ai autre chose à faire. Mais...
Un vieux bizarre qui vient se zapper à ma porte.
Non, non, avec quoi, les flics, quoi. Mais c'en est au point que, bah justement, cette histoire d'enjeu larger than life, comme tu disais, c'en est au point que, je ne sais pas si vous avez lu le Codex de Riva de David Eddings, est en gros, littéralement un manuel d'écriture de fantasy à papa.
Attends, je vais le mettre dans la page d'Amazon.
C'est très intéressant parce que en fait, il explique qu'il a commencé à écrire de la fantasy tout simplement parce qu'il s'est rendu compte un jour que le Seigneur des Anneaux en était à sa, 46e édition aux États-Unis, et il s'est dit punaise, ça vend encore, et ben je vais essayer de faire la même. Et c'est comme ça qu'il a commencé à écrire, il me semble, la trilogie du Joyau, si je ne m'abuse. Et c'est littéralement
Garriade, directement.
Pardon.
C'est pas la Belgariade carrément, enfin.
Je sais plus. C'est peut-être la Belgariade direct.
Le premier, c'est la Belgariade.
Mais ok, d'accord. Bon,
d'ailleurs,
pour moi.
Je tiens à vous signaler, messieurs dames, que le site Elbakin est signé sur la page Amazon de cet ouvrage, le Codex de Riva. C'est écrit dès la première ligne, le premier mot. On est irrésistiblement sous le charme de la verve et de l'humour des Dings. Vraiment un petit bijou que je ne peux que vous conseiller. Voilà.
Alors je ne sais pas qui l'a chroniqué, mais oui, c'est drôle parce que. C'est effectivement un bouquin
qui
est drôle.
S'en veut sûrement.
C'est un bouquin qui est drôle dans la mesure où, je disais tout à l'heure que ce genre d'histoire se prend généralement très au sérieux, mais là, pour le coup, Eddings, il se prenait pas au sérieux. L'histoire, il la prenait peut-être au sérieux, mais il avait bien conscience que c'était de la big commercial fantasy et qu'il faisait ça pour le fric. Et il le disait, il ne s'en cache absolument pas. Et dans la catégorie larger than life, l'exemple qu'il sort tout le temps et qui, moi, me fait beaucoup rire, c'est en gros, si vous n'avez pas une quête, vous restez chez vous et vous plantez des navets. Et c'est littéralement la phrase qu'il a sortie, et moi, ça m'a toujours fait rire. Parce qu'effectivement, il faut cet enjeu, c'est plutôt que d'aller sauver le chat de la voisine, effectivement, si tu n'as pas le dragon à aller buter ou le royaume à sauver, effectivement, ça n'a que peu d'intérêt.
Ça n'a que peu d'intérêt, mais effectivement, moi, ça me marque quand même le décalage de l'auteur avec les enjeux qu'il met dans son bouquin. Quoi. Et ce côté, j'ai été perturbé par
la réapparition de tout le monde.
Exactement, exactement.
Ça venait pas de moi.
Salut à tous.
Ça y est, on entend.
Hello Aka. Ça y est, nous avons Aka Lebes qui nous a rejoint. Hein.
Désolé pour le retard, petit problème technique.
Pas de souci, Aka. Oui, donc moi, en fait, ça me perturbe un peu toujours ce côté enjeu qu'il va y avoir dans un bouquin et le décalage de l'auteur par rapport à ça. Et surtout, je trouve que chez Eddings, j'ai vraiment l'impression de sentir un côté un peu « c'est bon, j'ai mis vos trucs de merde là, dans mon bouquin. Vous voulez les acheter maintenant ?» Tu vois, il y a un peu ça, en fait, qui me dérange un petit peu. Ce côté, je sais que j'écris des trucs qui, en gros, je veux dire, juste achetez-les, quoi.
Ça a bien marché au début, la Belgaria de la Malorée, la trilogie du Joyeux, la trilogie des périls, etc. Et après, ça a fini par se voir. Déjà, avec la rédemption d'Altalus, on commence à se dire, t'as pas l'impression qu'il se répète un peu, là ?
Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, la rédemption d'Altalus, c'est un livre qui est universellement reconnu comme mauvais. Il faut le savoir.
Okay. Ouais, mais il y a pire chez Eddings. Il y a la tétralogie des rêveurs.
Ah, les rêveurs.
Ah, les rêveurs.
C'est littéralement du copier-coller. Enfin, c'est quatre fois la même chose, quoi. Au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Mais vraiment, c'est pas une.
Ça, c'est
pas
pratique parce que du coup, tu fais juste rechercher, remplacer.
un peu. Et voilà, c'est pour ça que je dis au début, ça marchait très bien. Parce qu'il avait, comme tu dis, son petit truc de bingo, il cochait ses cases, etc. Et ça marchait, c'était sympa, c'est extrêmement agréable à lire, la Belgariade. La trilogie des joyaux, pareil. Mais Altalus et les rêveurs, pour l'amour du ciel, non, quoi. Mais,
pour quelqu'un qui se vante de faire de la commercial fantasy, il a quand même réussi à écrire 16 tomes qui sont lisibles, quoi.
Oui, mais on n'a pas dit que la big commercial fantasy, c'était pas bon. La big commercial fantasy.
C'est que là, effectivement, on est sur un auteur qui, à ce niveau-là, c'est plus tiré sur la corde, quoi. C'est autre chose. Pour les petits apartés, je ne sais pas si je l'ai dit dans un précédent podcast, mais pour celles et ceux qui écrivent, qui sont aspirants écrivains et qui veulent savoir ce qu'est une fin mauvaise, hyper mauvaise, vous n'avez pas forcément à aller lire la trilogie des rêveurs. Vous pouvez juste aller sur les 10 dernières pages de la trilogie des rêveurs et lisez les 10 dernières pages de la trilogie des rêveurs.
Tétralogie.
Bon, c'est une tétralogie. Mais vous allez sur les 10 dernières pages du dernier livre et vous allez voir ce qu'est l'une, probablement l'une des pires fins de fantasy qui existe.
C'était un rêve.
Et ben voilà, vous allez avoir une fin.
Dis donc.
Vous allez avoir une fin.
Spoiler alert.
Ah bah attends, la chronologie des rêveurs.
Ou à la Lost. Voilà. Ça, c'est la fin à la Lost.
Vous allez avoir une fin effectivement à la Dallas ou à la Lost où vous allez vous dire genre ah ouais, combien ça m'a coûté quoi. Bon, en même temps, vous les aurez peut-être pas achetés en grand format. A priori, il y a assez peu de chance. Donc voilà. Mais en tout cas, si vous êtes aspirant écrivain et même si vous êtes curieux, allez lire les dernières pages de cette histoire. Ça, c'est d'un point de vue intérêt, d'un point de vue, je trouve, il y a quelque chose. Voilà. J'espère que ça vous aura donné envie.
Ah bah,
carrément. Ah bah, on l'a bien vendu là. Ouh.
Ouais, n'est-ce pas hein. Enfin.
Et du coup, Giltanas, je crois que tu voulais rebondir sur quelque chose. Alors que
moi, je voudrais vous partager une petite anecdote.
Ah, partage-nous.
Parce que ça fait très vieux sage autour du feu.
Ouais, en fait,
au fil de mes recherches et de mes lectures et des podcasts que j'écoutais, il y a une espèce de révélation qui s'est imposée à moi. C'est que des choses qu'on définit aujourd'hui comme ultra classiques, à un moment donné de l'histoire, ne l'était pas. Bien sûr, il y a toujours l'effet de nouveauté. Et je voudrais parler l'exemple de la série Dragonlance. Alors, je ne sais pas si tout le monde voit ce que c'est Dragonlance. C'est un univers pour Donjons et Dragons à la base, pour Advance Donjons et Dragons, qui est sorti dans les années 80. Et il faut savoir que Dragonlance, qui est aujourd'hui une des séries littéraires avec le plus gros chiffre de vente de l'histoire des États-Unis, parce qu'il y a une vingtaine de bouquins de produits dérivés, hein, ce sont des produits dérivés, qui ont été New York Times best-seller, tout ce qu'on veut.
Et ça, donc,
c'est des millions et des millions de chiffres. Margaret Weiss a annoncé récemment un nouvel ouvrage. Et donc, Dragonlance a été créé en opposition à, on va dire, la fantasy Tolkien, parce que les gens trouvaient qu'il manquait des dragons dans Donjons et Dragons. Alors, c'est pas une blague. C'est tout à fait véridique. Et aujourd'hui, c'est Dragonlance, c'est quand même un des noms qu'on ressort souvent comme étant l'exemple de la big commercial fantasy. Mais là, à blinde, là, ils ont mis la locomotive sur les rails et c'est parti. Mais à un moment donné, quand Margaret Weiss et Tracy Hickman ont écrit leur bouquin dans leur voiture en allant vers ou de l'Ohio, je ne sais plus, eh ben, ils se sont dit, mais c'est totalement original, magnifique, il faut absolument faire ça. La preuve, c'est que ça s'est vendu et que ça se vend toujours. Ouais. Donc, je trouve ça cocasse, on va dire, que des choses qui sont aujourd'hui, à raison, considérées comme trop classiques, à un moment donné de l'histoire, des gens se sont dit « mais c'est merveilleux, c'est totalement original
voilà. ». Bah, il a bien fallu, pour faire un cliché ou pour faire un chemin battu et rebattu, il faut bien que quelqu'un ait ouvert le chemin. Et effectivement, ouais, mais... à ce moment-là, oui, c'était extraordinaire, mais aujourd'hui... la surproduction, bonjour quoi.
Même moi qui suis un énorme fan de Dragonlance, j'irai pas jusqu'à dire que c'est extraordinaire.
Non, je voulais dire que pour qu'un archétype devienne stéréotype, il faut que justement, effectivement, il y en ait eu des tas et des tas et des tas qui se contentent de vider finalement le truc original de sa substance et de garder que le squelette ou la silhouette.
Peut-être que dans 20 ans, on fera un podcast sur le steampunk, fantasy à papa ou à arrière-grand-papa.
En fait, ce qui est intéressant, justement, en particulier avec l'univers Donjons et Dragons, c'est que justement, c'est je pense, la base de tout ce qu'on peut appeler la fantasy à papa, ce qui a transformé ces archétypes en stéréotypes. L'archétype de la bande de jeux de rôle avec la sorcière elfe, le guerrier barbare, le voleur, le nain, et transformer les quelques personnages qu'on a déjà dans Le Seigneur des Anneaux pour en faire un truc qui devient complètement stéréotypé via le jeu de rôle et je pense via aussi la vision qu'il y avait du jeu de rôle dans les années 80.
Après, on a souvent... plus, j'ai l'impression, même déjà à la fin des années 80, quasiment que des groupes d'humains. Je pense que j'ai Shannara peut-être en tête, où c'est un groupe, on va dire, multiracial. Bon, Dragonlance, parce que c'est Donjons et Dragons, mais c'est surtout des groupes d'humains ou assimilés. Hein. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai, peut-être que je me trompe.
Bah, Drist, c'est un bon exemple, un bon contre-exemple, je pense.
Non, mais Drist, c'est Donjons et Dragons.
Oui, oui, tout à fait.
De mon point de vue, ça datait peut-être déjà d'avant Donjons et Dragons, parce que je ne sais pas, l'épée de Shannara, c'est quelle année?
C'est 77.
Oui.
77, Donjons et Dragons, c'est 74. Donc, il n'y avait pas déjà une grosse littérature développée, je pense. Ou alors, justement, ça serait... Là, ça serait à creuser, ça.
Moi, je pense que Donjons et Dragons est un peu à la base du stéréotype qu'on connaît maintenant de jeux de rôle, quoi. Et du coup, qui bave un petit peu sur tout ce qu'on appelle la fantasy à papa, quoi.
Mais comme c'est Tolkien qui a inspiré Donjons et Dragons, parce que finalement, c'est pas Tolkien qui est à l'origine de tout ça. Encore.
Alors, pas que, mais oui, très clairement. Et c'est ce qu'on avait mis dans le plan. Est-ce que Tolkien est de la fantasy à papa? Non, parce que c'est un classique. Mais oui, il a inspiré ça. Pas que. Je pense qu'il y a aussi Howard, bien sûr, qui est Conan le barbare, qui donne un archétype, qui est le barbare, justement, et qui fait partie aussi de la fantasy à papa, à mon sens. Et qui ajoute ce nouvel archétype, voire stéréotype, au jeu de rôle. Et on voit que Donjons et Dragons récupère d'ailleurs de tout ce qu'il a vu avant, c'est-à-dire Tolkien et Conan et tous les pulps américains.
Et Elric, on n'a pas encore parlé de Moorcock.
Ouais, mais Moorcock, justement, moi je ne suis pas trop d'accord. Hein. C'est...
Allez, fight.
Désolé, mais enfin, ça dépend comment on le place, mais. On va parler plus tard, je crois, de l'esthétique. Enfin, c'est ce que j'avais remarqué. C'est ce que j'ai déjà dit un peu d'ailleurs. Mais Moorcock, il s'amuse quand même avec le cliché de la quête. Enfin, chez lui, c'est souvent vain. Son héros, c'est plutôt un anti-héros. Enfin, même déjà à l'époque, justement, dans les années 60-70, il était. Il jouait lui aussi avec ça. Et il y avait un côté de plus en plus désabusé, d'ailleurs, au fur et à mesure qu'on avance dans ce qu'il écrit, je trouve.
Mais je pense que Giltanas voulait citer Elric plus en tant qu'inspiration qu'en tant que.
Ah,
oui.
Il y a papa.
Et pour le côté alignement.
Comme il était aussi dans la liste des exemples qu'on donnait plus loin, je me disais. Bon.
Pour moi, c'est l'archétype de l'épée démoniaque. Quoi. C'est plus que, oui. Que le personnage d'Elric. C'est l'épée démoniaque qui
oui, vient bien sûr,
la cathédrale.
Elric inspire encore aujourd'hui des auteurs de fantasy épique. Pour le personnage du héros ténébreux, un peu l'anti-héros, même si j'ai pas trop le terme, qui finalement s'avère être le protagoniste principal. Quoi. On le revoit, même si Moorcock s'est construit en opposition un petit peu à ce style-là, aujourd'hui ça a été récupéré dans un sens par ce contre quoi il voulait s'opposer à l'époque, je pense.
Ah oui, ça a été réutilisé par des auteurs amateurs de jeux de rôle. Enfin, Steven Erikson, son personnage le plus connu, même si on n'a pas lu l'œuvre, si vous avez vu passer des fois des artworks ou quoi, c'est un Amander Reich et il a une épée, une espèce d'épée maudite qui boit ton âme, quoi.
Il a les cheveux blancs.
Il a pas les longs cheveux blonds aussi. Donc,
bien sûr, il a les yeux verts, il est trop stylé. Mais voilà, tout ça pour dire qu'effectivement il y a eu cette réutilisation de cet archétype. Donc je voudrais revenir par contre vous poser la question sur est-ce que cette fantasy là elle a pas une petite perte de vitesse quand même en librairie ou pas, parce qu'on voit quand même passer pas mal de il y a quand même des œuvres qui traversent un peu les âges. Gitana, tu peux peut-être nous en dire plus.
Oui, bah oui. Même si j'ai pas les chiffres de vente sous les yeux. En fait, il suffit de voir ce qui est exposé dans les librairies, dans les espaces culturels, dans ce genre d'endroit. Alors, on me dira que ce qui se vend fait vendre, dans le sens où on met toujours les mêmes choses en avant. Mais c'est effectivement des ouvrages qui sont vendus en permanence et dont le style, le genre est toujours édité. Bon, je prends l'exemple de Brajlon, par exemple, qui en édite beaucoup. J'imagine que s'ils en éditent beaucoup, c'est qu'ils en vendent, ils s'y retrouvent à un moment donné. Donc, c'est que ça se vend. Après, est-ce que c'est en perte de vitesse? Je ne sais pas, mais je pense qu'Acalabès pourra nous éclairer.
Ouais, alors, vous éclairer, je ne sais pas, mais je peux donner mon avis en tout cas. En fait, je pense qu'il y a plusieurs points de vue à voir. C'est que déjà, j'aurais tendance à penser que la fantaisie à papa ou à papy, comme on dit, c'est aussi une fantasy, et même avant tout peut-être une fantasy pour un jeune lectorat. C'est quelque chose qui va être peut-être plus lu par des adolescents ou des fins d'adolescence, en début de carrière littéraire, que par des personnes plus aguerries. Ce que disait, ce qu'on disait tout à l'heure, je ne sais plus qui, sur le fait que, ben oui, on a lu Eddings quand on était jeune, on aurait peut-être moins apprécié si on le lisait maintenant. Et du coup, je pense que ce jeune lectorat, il existe encore. Comme Gilles Tenace vient de le dire, les rayons fantasy sont encore bien, bien faits. Et comme on en parlera plus tard, ben, y a aussi un recours à d'autres médias, et en particulier ben, les séries, qui ont dû faire revendre de l'épée de vérité, hein, désolé, mais aussi bah, maintenant de la roue du temps, j'imagine qu'ils ont ressorti des éditions pour, etc. Et du coup, bah, ça relance aussi cette...
Je pense qu'on sous-estime aussi le côté, l'impact de Game of Thrones là-dedans. Parce que c'est quand même, si on reste dans l'idée du visuel, etc., le Trône de Fer, c'est quand même classique. Et des gens qui ont aimé, on va dire, l'esthétique, etc., peut-être avoir une volonté de se tourner justement vers ce genre de fantasy.
Je serais pas forcément d'accord sur le côté classique. Alors classique sur une partie esthétique, oui. Classique dans son traitement, dans la noirceur
Je suis d'accord avec Gig. Pour moi, le Trône de Fer, c'est beaucoup plus du côté des rois maudits que de Good Kind ou de Shannara
Je me rappelle à l'époque où je connaissais pas le Trône de Fer et où je traînais tout le temps au rayon de la FNAC où je regardais les bouquins. Le Trône de Fer s'était mis en avant avec les couvertures qui n'étaient pas de la série et ça semblait être une série, tu sais, dark et tout. Pour moi, c'était vraiment très estampillé, genre ouais, c'est de la haute quoi. C'est vraiment. C'est pas de la fantasy, c'est pas la Belgariade. Et je le
sais. C'est pas avec ça que tu vas commencer.
Exactement. Qu'est-ce qui gagne à la fin du Trône de Fer?
On n'est pas là pour.
Il n'y a pas la fin du Trône de Fer.
Il n'y a pas la fin du Trône de Fer, de toute façon. Donc personne.
La série, elle compte pas. La série, elle compte pas. On ne veut pas le savoir. Mais
Saffron, tu voulais.
Ouais, pour moi, ça rejoint un petit peu ce que disait Aka tout à l'heure. Je pense, oui, que c'est un public jeune qui lit ça, dans la mesure où c'est encore la meilleure porte d'entrée de la fantasy. Je pense que si tu n'as jamais lu de fantasy de ta vie, en dehors d'Harry Potter, hein, je veux dire, tout le monde a lu Harry Potter, et même si les gens ne sont pas devenus fans de fantasy après, ils se disent, mais alors attends, la fantasy, c'est foisonnant, c'est super riche, il y a plein de sous-genres, s'ils font un peu leur recherche, par quoi je commence ? Commencer par le livre malaséen, ça me semble un petit peu excessif. Commencer par le Trône de Fer, ça me semble un petit peu excessif. Si on commence même par, j'ai envie de dire, attaquer par du Jaworski, vas-y, commence ton gagner la guerre. Non, c'est pas évident. C'est pour ça que je pense qu'effectivement, Aka a tout à fait raison quand il dit ça. C'est parce que c'est une excellente porte d'entrée. C'est simple, c'est facile d'accès. Et oui, c'est bourré de clichés, mais au moins, ça pave le chemin vers autre chose après.
Oui, et il y a clairement une notion effectivement importante de divertissement. Je ne sais pas si c'est ce que tu voulais dire, Gilo.
Tout à fait. Alors, je ne sais pas si tu veux que j'enchaîne ou si tu reprends. Mais...
Oui.
En fait, pour ce qui est de, je pense que c'est lié à perte de vitesse ou pas, hein, parce que perte de vitesse, clairement, on a vu que encore récemment, Pocket a remis en avant la Belgariade hein, qu'on a citée. C'était quand même une de leurs sorties fortes de l'an dernier, là, cette intégrale. Donc voilà. Et puis qu'on prenne justement des auteurs assez anciens, comme ce que Feist a pu faire, et quand Feist s'essaye, je vais être très court, mais quand Feist s'essaye à faire de plus moderne, un peu comme le Trône de Fer, ça donne son nouveau cycle qui est pour moi catastrophique. Ouais, c'est le contraire de ce qu'on peut. Enfin, c'est le contraire. Enfin, il obtient le contraire de ce qu'il aurait voulu obtenir comme résultat, donc c'est quand même un peu dommage. Mais bon, il faut bien payer ses impôts. Et donc, que ce soit des auteurs anciens comme ceux-là, cette génération-là, ou des choses plus modernes comme ce qu'on a cité tout à l'heure avec Wild, même si on ne le mettra pas forcément là-dedans, ou Vox Machina que citait Merwin, c'est vrai qu'il y a effectivement cette fameuse notion de divertissement. Parce que si on prend Vox Machina, donc l'adaptation, enfin qu'on peut trouver aussi en adaptation sur Amazon, adaptation de partie de jeu de rôle finalement, ça n'empêche pas que l'œuvre fait la part belle à la diversité. Et comme le disait Merwin, hein, parce que en général, je ne cite que les meilleurs, comme Aka tout à l'heure et maintenant Merwin, eh ben, ce sont des œuvres qui n'essaient pas forcément de déconstruire le genre, en tout cas pas totalement, mais qui en profitent pour capitaliser sur la familiarité des lecteurs avec ces thèmes-là. Bah, ces thèmes ou un univers ou un imaginaire, hein, comme on le disait tout à l'heure, hein, sur des images très fortes, et qui arrivent quand même à s'inscrire dans leur époque avec ce ton plus moderne. Mais voilà, c'est effectivement des portes d'entrée qui surtout ne laissent pas de côté le divertissement. Je ne dis pas que les auteurs de toutes ces œuvres ne cherchent jamais à faire réfléchir le lecteur, mais parce que en plus le divertissement, ça peut aller de pair avec des choses intelligentes. Mais voilà, le divertissement, c'est important.
Je voudrais juste citer que la série de Raymond Feist, l'actuelle, qui compte deux tomes actuellement, c'est la série des Fireman ou des Fearman. Mais Fireman, F-I-R-E-M-A-N-E,
des pour Fearman.
Eh ben, écoute, pour moi, c'est la série des Fireman. Tout de suite, je pense à des pompiers, tu vois, enfin, une quête.
Seulement.
Voilà.
À des Chippendales, quoi.
Écoute, peut-être.
Quelle indignité.
Voilà, si vous voulez aller jeter un œil.
Moi, je voudrais rebondir sur ce que disait Gilo sur Vox Machina et les portes d'entrée.
Donc, Merwin.
J'espère à personne. Oui, Merwin, parce que désolé, je vous confonds. Je souhaite à personne de faire découvrir la fantasy à quelqu'un par Vox Machina.
Ah oui?
Non.
Moi, je dis ça en le citant, hein, je le crois sur parole.
Vous l'avez vu?
Non.
Je sais ce que c'est, mais je n'ai pas encore regardé.
Voilà. En fait, déjà, si vous n'êtes pas familier avec le genre, vous passez à côté de 80% des références. Et c'est d'une vulgarité. Voilà.
Sur une échelle de South Park, tu...
je mets... Sur une échelle de South Park, je répondrai... je ne sais pas, American Dad.
Ah ouais, quand même. Oui, ouais. Quand même. Ok.
Voilà. Le gros avantage de cette série...
Pour ceux qui n'ont pas vu American Dad...
Eh ben, ils ont raté leur vie, voilà, et puis c'est tout.
On mettra la référence
plus de 50 ans, quand même.
Dans la nuit.
Nonobstant ceci, c'est bourré de références, effectivement, et c'est surtout, en fait, la parfaite transcription de ce que représentent environ 80% des tables de jeux de rôle. C'est-à-dire, c'est des gens qui jouent et qui délirent. Voilà, donc ça se ressent dans les textes, ça se ressent dans les dialogues, ça se ressent dans les situations. Il y a toujours ce côté épique de la quête, du groupe, effectivement, mais je pense pas que ça soit une bonne porte d'entrée pour la fantasy, ni une bonne porte d'entrée pour Donjons et Dragons, d'ailleurs, soit dit en passant. Mais ça a le mérite de refléter ce que je pense beaucoup de gens vivent autour de leur table quand ils jouent à Donjons et Dragons. C'est-à-dire que on se prend pas trop au sérieux.
Ouais, du coup, il y a quand même ce côté divertissement, non?
Après, oui, bah oui, c'est divertissant, mais c'est pas, pour moi, c'est pas une porte d'entrée.
Ah oui, d'accord.
Ouais, ouais, parce que tu, pour toi, il y a un, comment dire, si t'es pas familier, en fait, ça, tu peux vraiment rester.
Ah oui, tu passes à côté d'énormément de références, de clins d'œil, ce genre de choses. C'est comme Désenchanté, si tu maîtrises pas certains codes de la fantasy, c'est compliqué.
Bah écoute, Désenchanté, la première saison, je l'ai vue avec Madame, qui n'a pas forcément tous les codes de la fantasy, et qui avait plutôt apprécié. Tous les deux, on avait apprécié sans plus. Donc, c'était...
Mais quand on dit que c'est justement les codes de la fantasy classique qui font la fantasy, on va dire, grand public d'aujourd'hui, c'est exactement ça. C'est on retrouve des choses qui, au final, sont censées parler un peu à tout le monde. Oui, Gilo.
Oui, Gilo.
Ouais, du coup, c'est un peu ce que je me suis fait la réflexion tout à l'heure en préparant ce podcast, puisqu'on prépare nos podcasts.
Des fois.
On dirait pas comme ça, hein, mais.
Mais en fait, vraiment, c'est. Et après, je pense qu'on va glisser naturellement sur passer du roman à un autre support. Mais c'est vraiment ce côté esthétique, en fait, de beaucoup d'œuvres qu'on peut catégoriser en fantasy à papa, à papy, en ce que vous voulez, à mamie. C'est vraiment, finalement, même si certaines de ces œuvres cherche à aller un peu plus loin, à apporter quelque chose de plus, à être plus finalement peut-être inscrite dans leur époque qu'enfermée dans les années 80. Il y a quand même vraiment ce côté, au-delà du divertissement, c'est vraiment l'esthétique, quoi. C'est tout de suite des images d'elfes, de barbares ou du médiéval fantastique suffit. Euh, suffit à vous filer des boutons, ce qui peut être mon cas depuis quelques temps. Pas sûr que même si l'œuvre cherche à aller plus loin, à faire un pas de côté pour proposer quelque chose d'autre, dans mon cas, je suis pas sûr que ça suffise pour m'y intéresser, parce que justement, le poids de cette esthétique-là me plombe mon envie de découvrir ça, et je crois que j'étais pas le seul à être de cet avis.
Moi, ou alors, faut partir... Pardon.
Non, vas-y, ça fera...
Ou alors, faut partir dans le côté totalement ironique et se mettre au roman du Donjon de Nullbuck.
Oui,
c'est autre chose.
Alors, tu peux peut-être plus conseiller Pratchett, je pense.
Ouais, c'est ça, peut-être.
Ouais, non, Pratchett, très honnêtement, je le conseillerais pas pour une porte d'entrée non plus. Hein.
Non, mais pour quelqu'un qui détourne les codes, justement.
Ah oui, effectivement. Oui, tout à fait.
Tu vois, Gilo, je rebondis un peu sur ce que tu dis sur l'esthétique.
Je t'en prie.
En fait, ça a un côté marrant, mais typiquement, je trouve que le livre malaséen, qui pour moi n'est pas du tout, rentre pas du tout dans le cadre de Fantasy à Papa, rentre dans le cadre de l'esthétique. Finalement, tu as des personnages qui ressemblent à des elfes, tu as des morts-vivants, tu as des sorciers, tu as des nains plus ou moins, tu as des barbares sans aucun doute.
C'est sûr.
Donc, il y a une esthétique, et pourtant, j'ai pas l'impression qu'on puisse le mettre dans le même lot.
Ce raisonnement a ses limites. Hein. C'était une réflexion qui m'est venue spontanément, parce que beaucoup, je pense, d'œuvres cochent ces cases-là, mais évidemment pas forcément toutes. Après, pour Erickson, c'est vrai aussi, oui, quand tu vois, je pense à la fameuse couve américaine des Jardins de la Lune, notamment, bah, c'est sûr que, voilà, ou plein d'autres, hein, c'est de la fantaisie épique pure et dure, si on peut dire. Après, quand tu te penches sur l'œuvre, oui, il y a des créatures qui ressemblent, par exemple, à des elfes ou autres, mais il y a aussi plein de trucs très bizarres, au niveau créatures, je veux dire, au niveau univers.
Il y a des dinosaures.
Ouais, dans Donjons et Dragons aussi, hein, il y a des espèces de... yeux volants ou des crânes qui flottent dans de l'eau et des machins comme ça.
Est-ce que j'ai entendu des pneus volants
au niveau bestiaire? Mais même l'univers de Warhammer est un bestiaire très, très varié aussi. Je pense que là, on peut retrouver énormément de trucs. Et finalement, Erickson pourrait rentrer dans la Fantasy à Papa, sauf que moi, personnellement, je ne l'ai fait pas rentrer. Parce que je trouve que c'est très... Ah, je le classifierais pas là-dedans. Ensuite, les classifications, on fait toujours un peu plus ou moins ce qu'on veut, mais...
Il déborde beaucoup quand même des cases de la fantasy à papa.
Ah bah,
il déborde tellement que...
Ouais. Non, mais justement...
Toutes les cases de tous les genres littéraires.
Erickson est omniprésent.
Il est omniprésent et omnipotent.
Et omniscient. Il sait qu'on est en train de parler lui, attention.
Ouais, il nous écoute en ce moment même.
Il va peut-être intervenir dans ce podcast. Encore faut-il qu'il ait le mot de passe pour rentrer.
Ouais, et s'il le devine, je vais vraiment le prendre très pour moi. Mais bon.
Nous ne révélerons pas dans ce numéro quel était le mot de passe. Mais ouais, effectivement, je rejoins Gilo sur cet aspect esthétique qui, de toute façon, a été hyper aidé par Donjons et Dragons, par les bouquins de règles qui avaient déjà, corrigez-moi si je me trompe, mais les illustrations, par à l'époque déjà plusieurs décennies de Seigneur des Anneaux qui avaient déjà des illustrations à leur rencontre. J'ai dit Thanas.
Alors pour revenir sur les illustrations, notamment celles de Donjons et Dragons, je pense qu'il faut qu'on parle de Gary Elmore, qui a beaucoup illustré Donjons et Dragons et Dragonlance, à tel point que j'ai déjà rencontré des gens qui connaissaient ces illustrations, qui les avaient déjà vues, mais qui ne savaient pas que c'était Dragonlance ou Donjons, etc. Elles étaient ancrées dans l'esthétisme de manière générale, et surtout dans le choix des couleurs qui étaient assez chatoyantes. Et vraiment, ce sont des dessins qui attirent l'œil. Hein. J'encourage tout le monde à aller faire un tour sur Google Images. Cette visuelle, plus que le fond qui était important et qui permettait aux gens tout de suite d'identifier ça, c'est de la fantaisie. Voilà. Il y avait des dragons, il y avait des guerriers, il y avait des femmes plus ou moins dévêtues. C'était pas Frazetta, attention. D'ailleurs, limite, je pense que ça mériterait en soi un podcast, l'évolution de l'image de la femme dans la fantaisie épique. Bah ça, parce que ça évolue, elles sont de plus en plus vêtues et de mieux en mieux armurées, hein, je tiens à le signaler.
Et ce sera l'occasion d'un autre podcast, mais malheureusement pas celui-là. Gilosen.
Oui, bah, pour rebondir encore une fois sur l'aspect visuel et en même temps sur ce qui se passe en librairie, ce qu'on disait tout à l'heure sur le côté potentielle perte de vitesse ou pas de ce type de fantasy. Moi, il y a quand même un phénomène qui existe maintenant depuis plusieurs années, c'est toutes les BD, pour passer à cet aspect-là, cette branche-là de l'édition, c'est le succès de toutes les séries sur les nains, les elfes, les orques,
les mages.
Les mages, voilà, effectivement, avec des, là aussi, bah, effectivement, des tomes par dizaines, par chaque catégorie, hein, pas en les cumulant. Par série, pardon. Donc, ça fait quand même des dizaines et des dizaines d'albums qui misent tous sur le même type de visuel. Donc, à chaque fois, c'est bah, les elfes, bah, t'as des elfes, hein, et puis des elfes, voilà. Quand même, c'est,
ils ont différentes couleurs.
Les, ouais. Nains, les nains, t'as des nains.
Ils ont toutes des grandes oreilles.
C'est.
Les nains, ils sont tous barbus.
Oui, bon, après, il y a
les
quoi
mages, les... sont tous en train de faire de la magie. Enfin, bon, voilà,
il y a des choses immuables. Hein, tu
c'est ça, voilà. Et ça, bah, ça, on peut dire ce qu'on peut, en penser ce qu'on veut ou dire ce qu'on veut, bah, ça cartonne, puisque la preuve, on en est à 20, 25, etc., etc., albums. Donc, c'est quand même, je pense, des séries qui sont très dynamiques dans le paysage.
Et il y a eu le jeu de rôle récemment, Les Terres d'Aran, qui permettait de jouer le pendant elfe, il y a le pendant nain qui est sorti.
Ah, tu vois, j'avais raté ça.
Donc en toute honnêteté, ça cartonne parce que nous, on en a au CDI du lycée dans lequel je travaille. Et, alors, c'est des gamins qui ne lisent pas du tout de fantasy en lycée professionnel, voilà. Mais ça sort. Voilà, ça sort parce que les couvertures attirent l'œil. Mmh. Et il faut pas imaginer, c'est un des rares genres en France, on apprend aux couvertures. Les littératures blanches, de manière générale, ou le policier, les couvertures, elles existent parce qu'il y en faut une.
Oui.
On a des vrais essais. Ça n'aurait pas existé spontanément.
Dédié à ça.
Oui, oui, oui. Effectivement, comme la fantasy est un genre visuel par excellence, ça se prête d'autant mieux à la bande dessinée. Et effectivement, cette fantasy-là. J'allais dire à papa, alors on peut dire à maman également, hein, ou à mamie, papy. C'est une fantaisie, effectivement, qu'on va beaucoup retrouver en BD, qu'on va beaucoup retrouver chez Soleil, qui a énormément exploité le filon avec, je crois que c'était Jean-Luc Istin, si je ne dis pas de bêtises, qui avait sa propre collection vraiment dédiée, je crois que c'était...
Celtique,
exactement, Celtique. Où là, c'était clairement sur tout ce qui était légende celte. Mais tu as... Enfin, Soleil a énormément exploité ce filon-là, et toujours dessus, d'ailleurs, depuis des années. Donc, il y a clairement quelque chose qui fonctionne par rapport à ça.
Bah, tu vois les chiffres de vente, même maintenant, chez Dracou. Donc, collection de bambou, d'Arleston.
Ouais.
Enfin, ils ont fêté leurs 3 ans. Et j'avais quelques chiffres de vente. Alors, ce qui se vend le mieux, c'est le Grimoire d'Elphi, ce qui n'est pas du tout dans le même registre. Hein, donc, et en plus, c'est une BD très sympa, donc tant mieux. Mais voilà, et eux aussi, j'avoue que je n'ai pas les chiffres de vente des elfes ou des nains, etc. Mais quand on a plus de 20 tomes, c'est que le lectorat continue de répondre présent. Sinon, surtout en BD, quand tu as le nombre de séries qui sont arrêtées au bout de un tome, parce qu'elles n'ont pas trouvé leur public, la BD, c'est un marché énorme, mais qui est aussi très brutal. Ouais. Et Dracou a l'air de très bien se porter aussi, donc ils font quand même beaucoup de textes, beaucoup d'albums très classiques, hein, on ne va pas non plus se mentir, avec plus ou moins de réussite, quoi, mais en tout cas, ça marche bien aussi. Donc,
De toute façon, effectivement, en prenant aussi Arleston pour gérer cette collection-là, le but, c'était clairement annoncer. C'était pas de faire une déconstruction du genre.
Ça reste très, très Soleil dans l'esprit, c'est sûr.
Voilà. Preuve en est que ça fonctionne, en tout cas. Donc, par rapport à tout ça, est-ce que la diffusion de cette fantasy classique, ça se fait quand même beaucoup par le visuel ? C'est une question qu'on est en droit de se poser, parce que c'est aujourd'hui le genre de fantasy dominant dans les médias dits visuels. Parce que, on l'a dit précédemment, ces codes sont connus, ou en tout cas, ils vont être connus, reconnus par un très large panel de personnes, de générations également. Ce sera forcément beaucoup plus connu que ces sous-genres. Tout ça, c'est simplement parce que c'est une histoire de reconnaissance. C'est plus facile à reconnaître, c'est plus facile à classer, et du coup, c'est plus facile à consommer, même si je n'aime pas le terme.
Moi, je pense qu'en effet, il y a en particulier dans les médias les plus visuels, et je pense même plus que la BD, je pense aux jeux. d'un point de vue général, que ce soit le jeu vidéo ou le jeu de société. C'est un univers où justement on a envie de tout de suite pouvoir rentrer dans un univers sans avoir d'explication. Donc il faut se raccrocher à des stéréotypes, à des choses connues. Et donc on voit clairement ça fait maintenant, j'ai pas envie de dire en ce moment, puisque ça fait 20 ans que dans le jeu de société, ça pullule de tous les côtés de bonne vieille fantasy à grands-parents. On voit que ça, bien évidemment que ça se raccroche à des franchises déjà connues. Ça va dans les deux sens, hein, d'ailleurs, puisque finalement le monde de Warhammer a commencé en tant que jeu avant d'être dérivé en roman. Mais on voit énormément de jeux d'inspiration fantasy avec des nains, avec des elfes, avec les deux, avec des groupes de guerriers, etc.
D'autant plus qu'aujourd'hui, on a tendance à favoriser le côté transmédia. Je pense par exemple à Descent, le jeu de plateau qui est très classique dans sa construction d'héros qui vont faire des quêtes, etc. Maintenant, il y a des romans sur ce jeu de plateau. Donc Warhammer, on en a parlé, et la Black Library, qui est peut-être à l'heure actuelle l'éditeur d'imaginaire qui bombarde le plus le marché, avec en moyenne 4 sorties par mois, rien que sur les licences Warhammer, Age of Sigmar et les jeux dérivés. Chaque nouvelle extension de World of Warcraft se voit accompagnée de son roman qui met en place, on va dire, la nouvelle extension. Les jeux vidéo dérivés d'univers fantasy classique voient aussi leur roman développé. Donc il y a tout ce côté transmédia qui fait qu'on a l'impression que c'est... en fait, on est cerné par cette imagerie et qu'on le veuille ou non, elle nous influence. Et elle influence nos choix de lecture et nos choix de jeu. Et en même temps, elle contribue à créer un code commun à tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde s'est identifié à un dragon, même ma grand-mère. Ça tombe bien, c'est de la fantaisie à grands-parents. Ouais. Donc...
Ah bah, y a des dragons vivent très, très vieux. Safran, tu voulais...
Pour rebondir sur ce que disait Gildanès à propos de « on est bombardé de ça et on ne voit que ça et du coup ça nous influence », le problème c'est que nous on est dedans, du coup on sait faire la part des choses, on sait qu'il existe autre chose, etc. Le problème c'est que je pense que pour un public plus générique, qui ne connaît pas nécessairement la fantasy et qui peut avoir des préjugés sur la fantasy, ça n'aide absolument pas. Parce que pour ces gens-là, du coup, si la fantasy, c'est une question d'orques, d'elfes, etc., ben, ils vont penser que si tu lis de la fantasy, c'est là, je pense, d'où vient cette espèce d'image de, avec 8 paires de guillemets, d'ado attardé. Quand tu dis que tu lis de la fantasy, les gens sont braqués sur le visuel Donjons et Dragons en se disant, il n'y a pas grand-chose d'autre dans Warhammer ou ce que vous voulez. Il n'y a pas grand chose d'autre dans la vie et c'est quand même des clichés et t'es dans un état de, je sais pas comment on dit en français, arrested development, mais voilà, t'as arrêté de grandir à un moment et je pense stase. Que ça peut être, oui voilà, t'es dans une espèce de stase et je pense que ça peut être vraiment au détriment du fan de fantasy qui sait qu'il y a autre chose.
Comme un
enfant bulle. Oui,
mais il n'y a pas besoin de lire autre chose si. Si ça convient pas, vous pouvez tout à fait lire de la science-fiction, hein. Y a pas de problème.
Non, mais c'était pour rigoler.
Hein.
Non, non, mais voilà, tu vois ce que je veux dire. Je pense que ça contribue malheureusement à cette image très négative qu'a la fantasy en se disant ouais, vous êtes tous des mômes autour d'une table de Donjons et Dragons. Et alors déjà, je vois pas le problème de jouer à Donjons et Dragons quand on a plus de 15 ans. Ça n'est absolument pas un souci. Et oui, non, dans la fantasy, il y a autre chose. Mais c'est parce que on est tellement bombardé de ce visuel-là tout le temps qu'à mon avis, les gens ont une vision potentiellement très biaisée de la fantasy.
Gilles Hossein, est-ce que toi aussi, tu as une version très biaisée de la fantasy ? Une vision ?
Écoute, je ne sais pas, sans doute qu'un peu, un peu, hein, on a chacun ses propres biais. Mais oui, non, mais ce que vous dites, je pense que ça peut clairement rentrer dans les reproches, pour aborder un peu le sujet, qu'on peut faire à ce type de fantasy, qu'elle en soit responsable ou pas, hein, que ce soit finalement les conséquences du truc, tout ce qu'on vient de dire sur le côté transmédia, etc., ou le poids de l'image. Mais bon, là-dessus, je pense que Geeks, quelque chose me dit que tu seras plutôt d'accord avec moi.
Oui, je suis complètement d'accord. Et d'ailleurs, je vais faire un petit écho à notre podcast numéro 52 sur la fantasy et tel réac que vous pouvez aller réécouter sur toutes les plateformes de podcast. Bah, je vous le recommande tout simplement parce qu'à l'époque, on avait parlé justement de ça. Comme beaucoup de genres et d'autres phénomènes culturels, on peut juger parfois que la fantasy, ou qu'en tout cas un certain type de fantasy, va être un peu trop statique. On va lui reprocher justement ce que disait Steve Safran, hein, son état de stase. Et c'est effectivement ce qu'on peut reprocher à une certaine frange de la fantasy. C'est-à-dire qu'il y a une certaine frange de la fantasy où on peut dire effectivement qu'elle n'évolue pas avec son temps, qu'elle n'intègre pas les évolutions des mœurs ou même les manières de raconter des histoires. Tout ça, c'est un peu figé. Et au-delà du fait de lire ou de se faire raconter toujours la même histoire, il y a donc le risque, hein, je mets des guillemets, de se retrouver un peu engoncé dans une certaine vision du monde qui est toujours la même. Donc d'avoir des œillères. Et mettons les pieds dans le plat, vraiment, à force de tout ça, le risque est d'avoir une vision, bien entendu, un poil rétrograde. Parce que bah, derrière le médiévalisme constamment accolé à la fantasy, on pourrait être tenté de trouver surtout une image assez peu nuancée d'un peu tout, du rapport homme-femme, de tous ces archétypes, le groupe de héros badass avec le guerrier au gros pec, à la grosse épée, la magicienne timide et super canon qui se définit aux trois quarts par ça, voir qu'avec ça, le méchant avec des cornes et qui veut détruire le monde, le sidekick qui fait rire que son auteur, etc., etc. Et Gilles Tanas veut enchaîner.
Ah oui, bah alors là, attention.
Il va
m'enchaîner. Attends, je me cale bien dans le machin. Donc en gros, si je résume bien ce que tu as dit, pour la fantasy épique, c'est ce qu'on pourrait considérer comme l'équivalent du puits du fou de la fantasy. Voilà. Donc,
j'ai effectivement peut-être décrit une version du puits du fou. Voilà. Il y a peut-être une certaine frange de la fantasy, un sous-genre qu'on pourrait appeler le puits du fou.
J'avoue être assez fier de mon parallélisme parce que.
Ouais, elle est très bonne. Elle est très...
En fait, finalement, ce que tu dis, c'est vrai. C'est qu'on peut tout à fait aller au puits du fou et kiffer et être conscient que ça n'est pas l'histoire et le cachet en la fantasy. Donc, on peut tout à fait adorer la fantasy épique. Comme c'est mon cas, et être conscient de ses limites, et aussi se rendre compte que ce n'est pas, et de moins en moins d'ailleurs, parce que on interviendra dessus après, je pense, c'est la production actuelle, en tout cas pour la France, tend à se démarquer de ça, et on a une image qui est de plus en plus négative de cette fantasy. C'est comme disait Safran tout à l'heure, c'est tu lis de la fantasy épique, ah ouais, bah ok, t'es pas un sous-lecteur, mais t'as pas de goût, tu vois. Tu comprends pas, tu t'es enfermé là-dedans, alors qu'il y a tellement de choses vachement, vachement mieux à lire. Pourquoi tu lis pas ci, pourquoi tu lis pas ça?
T'es un peu bizarre.
Et
c'est pas ce que j'ai dit.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que je vais prendre, tu vois, le cas dans le forum, ou sur le forum, parce que dedans, non. T'as souvent des gens qui interviennent. C'est bien, donc continuez d'intervenir sur le forum, les gens, pour dire ouais, non, je lirai pas, c'est trop classique, non, le pitch me plaît pas, etc. C'est ce qu'on reprochait un moment à la fantasy qui aujourd'hui est celle qui est en vogue. C'est ce qu'on reproche aujourd'hui à la fantasy classique, j'ai l'impression, c'est qu'on lui laisse pas trop sa chance et on va tout de suite la mettre dans une case en disant, bah, de toute façon, c'est estampillé fantasy classique épique. Donc, il y aura ça, donc je vais pas le lire. Et je trouve que c'est dommage de pas laisser sa chance à certains bouquins qu'ils méritent malgré leur étiquette très classique. Et c'est ce que j'ai l'impression de voir régulièrement, pas tout le temps, attention, sur le forum ou sur d'autres forums ou sur d'autres sites, c'est que tout de suite, ah, on lit la quatrième de couverture, ah bah non, je le lirai pas. Et c'est dommage.
Ça, bon, moi, j'en lis beaucoup. Sur tous les forums.
Lis beaucoup pour le site parce que c'est un petit peu ma chasse gardée avec les romans dérivés, mais.
Tu lis beaucoup de quatrième de couve.
Je lis beaucoup de fantasy épique que personne ne veut chroniquer, mon bon monsieur. C'est. Voilà.
Je suis assez d'accord avec toi, effectivement, tu pointes un truc intéressant, c'est que. On va être beaucoup plus dur avec ce genre de fantasy qu'on va l'être avec une fantasy un peu plus, j'allais dire déconstructiviste, mais je cherche un terme
moderne.
Un type de fantasy plus moderne. Il y a beaucoup moins de chances que quelqu'un qui arrive avec un roman de fantasy moderne, on dise genre, ça a l'air trop chiant. Donc, vraiment pour le dire comme ça, quoi. Oui, Gilo.
Bah parce que souvent, on l'a plus lu, celui de fantasy épique, quand il veut essayer d'apporter un peu d'originalité, ou que même tout simplement, les personnages peuvent être ultra charismatique, mais le schéma, on va dire, à ce moment-là, lui sera très classique et tu l'auras déjà lu mille fois. Moi, je vais dire, je suis. Il y a des romans très classiques, notamment, je sais pas, l'Arcane des épées, que moi j'apprécie beaucoup pour leur personnage. Même aujourd'hui. Après, si vous devez lire un seul Tad Williams, lisez peut-être la Guerre des Fées, malgré son titre.
La Guerre des Fleurs.
Des fleurs, pardon. Oui, mais c'est des fées dedans, donc j'ai un peu. Il y a des fées, hein. Oui.
Il y a des fées, mais c'est la Guerre des Fleurs.
La Guerre des Fleurs, effectivement. Pardonnez-moi. Je finis, je laisse la parole à Gitanas. Mais après, bon, le risque inverse, c'est effectivement, mais on pourra développer ça dans un autre podcast, c'est que la fantasy dite moderne, on peut peut-être passer plus de choses à certains romans sous prétexte qu'ils font des efforts dans tel domaine, alors que l'histoire proprement dite, racontée, sera pas forcément, je sais pas, ni palpitante, ni touchante pour le lecteur, voilà. Donc c'est vrai je suis d'accord qu'il faudrait quand même, dans tous les cas, juger l'œuvre elle-même au-delà de son résumé.
Ouais, non, c'est effectivement le risque. Si tu t'amènes avec un roman de fantasy où tu dis c'est l'histoire d'une corde à linge, il y a effectivement le risque
Mais s'il y a des magiques.
Moins de lever de bouclier, et peut-être. Oui, Aka.
Ouais, en même temps, il y a des bouquins aussi qui passent par le point de vue d'une corneille et tout le monde crie au génie. Hein, donc.
C'est exactement ce que j'allais dire. Ouais. Voilà.
Ok, excuse-moi.
Alors, il faut nous citer ça parce qu'il nous faut nous citer le bouquin là.
C'est Cra.
Cra.
Ah, c'est Cra. De John Crowley.
Ah, c'est bien. Le son de la corneille, la Cra.
Mais du coup, moi, je me pose la question justement du succès des éditions Kalidor, qui quand même balance de la bonne grosse fantasy épique. Je repense au Serpent Ouroboros. Et ça marche pas mal. Hein. Mais je pense que là, Aka a plus de choses à dire que moi, voire à nuancer un peu mes propos.
Ouais, là, tu touches une corde sensible, donc forcément, il va falloir que je le dise. Alors déjà, bien évidemment, les éditions Kalidor rentrent complètement dans ce qu'on pourrait appeler la fantasy à arrière-grands-parents, hein, parce que quand on sort les bouquins, les centaures qui du début 20e, voire plutôt que ça pour le serpent Ouroboros, ça remonte à un petit bout de temps. Ensuite, justement, je trouve que typiquement le serpent Ouroboros est un parfait contre-exemple de fantasy épique qui n'est pas du tout de la fantasy classique comme on peut l'avoir. Quoi. C'est,
ah oui, oui.
Moi, je suis un très très grand fan du serpent Ouroboros parce que justement, avant même que ce soit des clichés, il en joue. C'est ça qui est absolument génial. Par contre, je trouve que Les Habitants du Mirage sont beaucoup plus. Est un livre qui est beaucoup, beaucoup plus classique dans sa construction et dans ses personnages et rentrerait complètement dans le cadre de la fantasy à papy. Mais, quelque part, le génie de Thierry Fraisse, c'est de ne pas jouer sur cette corde fantasy classique, enfin, fantasy épique ou tout ce que tu veux, mais de jouer sur le côté un objet littéraire et presque scientifique de la littérature. Quoi. C'est,
ou classique tout court.
Pardon ?
Ou classique tout court, en fait. Ou
classique tout court, et ce qui fait le succès de l'édition, je pense.
Mais suis-je la seule à faire une différence entre... Pour les éditions Kalidor, pour moi, j'appelle pas ça de la fantasy classique, c'est la fantasy pré-Tolkien, en fait. C'est-à-dire que, comme le disait, c'est comme le disait très bien Aka, il joue des clichés avant même que ce soit devenu des clichés. Puisque, bah, si je ne m'abuse, Le Serpent Ouroboros a été publié avant Le Hobbit, avant Le Seigneur des Anneaux, etc. Donc, pour moi, il y a encore une différence. Là, on est carrément dans la fantasy de grands classiques, plus que dans la fantasy à papa. Personnellement, je fais une distinction. Je ne mets pas les Hopmirlis et les... Comment il s'appelle l'auteur du Serpent Ouroboros ? Edison, c'est ça ?
Edison.
Edison. Et les Edison et tout ça... J'ai tendance à pas les mettre dans la même catégorie que
Abraham Merritt, c'est un peu le limite quand même.
Que les Eddings ou les Good Kind. Pour moi, c'est vraiment pas pareil. Et c'est pour ça que les éditions Kalidor se démarquent tellement, parce que c'est la fantasy la fantasy que tu savais pas que ça avait de la, qu'il y avait des gens qui avaient écrit de la fantasy avant Tolkien, en fait. Tu vois, c'est bête à dire, mais voilà, c'est la distinction que je fais.
Pour aller sur autre chose que Kalidor, moi, ce que, quoi, on parle de fantasy épique, etc., avec un certain œil critique, mais je crois pas qu'on ait encore parlé de Sanderson, et pourtant, pourtant clairement, c'est même affiché, quoi, quand il a commencé le cycle de Rochard, c'est affiché, il a dit, je veux faire de la grosse fantasy bien épique qui tâche.
Ah bah, depuis Elantris, hein, de toute façon. C'est clair que bah, je voulais en parler de Sanderson, parce que je ne fais pas
ouais, un mais podcast. Mais il n'y a pas de nain.
Alors, non, bah... il a pas de... mais il coche énormément. Si tu reprends le bingo fantasy du blog Guin and Menin, Sanderson va cocher énormément de cases. Tu vas avoir le héros orphelin, tu vas avoir la magie un peu perdue qu'on est en train de retrouver. Le héros orphelin, tu vas lui donner un mentor, tu vas avoir un grand méchant. Mais effectivement, c'est, encore une fois, Sanderson, c'est « je prends ces trucs que toi, tu connais, lecteur, donc comme ça, déjà, t'es pas perdu, et au lieu de le mettre à la case 1, je vais te le mettre à la case 29. » Tu vois, je vais t'inverser les trucs, en fait. Je vais t'inverser les trucs, ça va être comme un Rubik's Cube, et je vais te faire, en fait, un pitch où je te dis « ok ». Eh bien, écoute, tu vois le grand héros ? Tu vois le grand méchant ? Ouais, je vois, ouais. Ok, eh bien, le grand méchant, il a tué le grand héros. Ah, merde. Ouais, et ça commence comme ça.
Ben, c'est la roue du temps.
Ouais, mais...
Non. Non, effectivement, c'est... Oui, c'est Mistborn, quoi.
C'est l'adaptation de la roue du temps.
C'est la... Ne parlons pas de choses qui fâchent, s'il vous plaît.
Oui, c'est vrai que pour moi, il y a une différence. Encore une fois, dans ma tête, il y a une différence entre fantasy épique et fantasy à papa. Et tu peux faire de la fantasy épique comme le fait Sanderson, sans pour autant rentrer dans la petite case de la fantasy à papa. Mais comme tu le dis très bien, Giggs, je trouve que Sanderson prend tous ces trucs-là et les déconstruit. C'est effectivement, oui, le grand méchant, le grand méchant a tué le héros. Et oui, il y a des batailles épiques, etc. Mais c'est pas, je les mettrais vraiment pas dans la même catégorie, en fait.
Peut-être pour le côté un peu lisse, non ?
Ah oui, ça, c'est très lisse. Ça, c'est sûr.
Très lisse chez mais... Sanderson, on ferme les
portes. Alors, je ne serais pas d'accord.
Je sais pas si Sanderson, c'est vraiment une envie de faire dans la fantaisie à papa, ou si c'est... Religion. Le corté mormon de Sanderson oui. Qui ressort. Ça, à part lui poser la question directement.
Il me semble qu'il l'aborde.
La prochaine fois, Giggs, qu'on fait une interview de Sanderson, tous les deux, on lui pose la question. Hein.
Oui, et on vous renvoie à notre excellente interview de l'auteur que nous avions réalisée ensemble avec sa
En toute
prod,
modestie, hein. Excellente interview. Hein. Excellent.
Je pense que c'est, en toute modestie, l'une des meilleures interviews de Brandon Sanderson de tout l'Internet.
De tous les temps, hein, de tout l'Internet.
On ne lui a jamais posé d'aussi bonnes questions.
Et exactement. Donc, on vous renvoie à cette interview sur notre site.
Donc du coup, pour reprendre les propos de Safran, la fantasy épique n'est pas obligatoirement de la fantasy à papa, mais est-ce que la fantasy à papa est obligatoirement de la fantasy épique ? Ah.
Joker.
Très honnêtement, je dirais oui. Oui, tout à fait. Aussi, j'aurais tendance à dire oui.
Ça me rassure.
Moi, je dirais non.
Ah.
Moi, je dirais
développe.
Pour plusieurs points. Alors déjà, moi, personnellement, j'inclus l'Heroic Fantasy aussi dans la Fantasy à papa, à la Sword and Sorcery.
Ouais. Ah oui, le Fritz Leiber et le
ça a fait le saut aussi. Et Conan,
moi, ça rentre dans la Fantasy à papa, à papy, ouais. À mamie, à ce que vous voulez. Mais ça rentre dedans. Et l'autre chose, c'est que pour moi, il y a des choses dans la Fantasy à papa qui n'est pas de la Fantasy épique, et je pense en particulier au roman Warhammer, où globalement c'est pas très épique, les héros sont pas forcément géniaux. On regarde Félix et Gotrek, Félix c'est quand même un mauvais, quoi.
Tu les as tous lus ?
Je les ai pas tous lus, non, loin de là. Mais globalement,
une gradation.
C'est Et c'est déjà déconstruit, finalement. Ça, l'univers Warhammer est assez, assez noir aussi.
À partir du tome 45, ils détruisent des dieux.
Alors déjà, je trouve que c'est très bas comme coup. Et deuxièmement, je trouve que c'est très intéressant ce que dit Aka, parce qu'il faut savoir que le monde de Warhammer n'existe plus. Games Workshop l'a tué. Donc c'était effectivement un monde très sombre, très dark fantasy. Hein, c'est d'ailleurs ce qu'en faisait son charme. Il n'y avait pas de grands héros, même quand on joue au jeu de rôle ou quand on lit l'historique, c'était vraiment des personnages qui avaient les pieds dans la boue, quoi. Et ça a été remplacé par Age of Sigmar, qui là est vraiment un monde de fantasy épique, puissance beaucoup plus. C'est-à-dire que les dieux sont là, il y a de la magie partout, c'est beaucoup plus flamboyant. Et les héros sont vraiment des gros héros. Même quand les romans suivent un petit groupe d'aventuriers, etc. Là, on a des gens qui sont beaucoup plus bourrins que Drake et Félix. Même si Gotrek est quand même un sacré bourrin. Parce que le premier roman s'intitule Tueur de trolls. Et après, on se retrouve rapidement avec Tueur de Skaven, pour faire plaisir à Jason. Tueur de dragons, tueur de démons. À la fin, il faut savoir qu'il part dans les royaumes du chaos tout seul avec sa hache et il va dérouiller des dieux. C'est, voilà.
Non, plutôt.
Il n'est pas là, avec sa hache. Ouais. Et il n'est pas là pour photocopier du sable, le petit Gotrek. Mais c'est vrai qu'il y a un petit côté, on va dire, dark fantasy qui manque dans l'univers actuel de Games Workshop. Et même ce côté, on va dire, classique, se perd chez Donjons et Dragons actuellement. On a une remise en cause. Alors, on ne rentrera pas dans la polémique, si c'est une polémique de les races sont méchantes, les elfes noirs, est-ce que c'est vraiment que des grands méchants, etc. Mais les alignements se perdent, il y a plus une volonté d'être centré sur la personne et pas sur la quête en elle-même. Il y a beaucoup plus de micro-gestion sur la personnalité, sur l'évolution du personnage, et un petit peu moins sur la bagarre. Donc c'est des choses qui ont tendance à évoluer, même chez ceux qu'on pourrait considérer comme les gardiens du temple du genre traditionnel.
Pas comme quoi.
Très bien.
Et d'ailleurs, je trouve que l'appellation, quoi, on parlait de la noirceur de Game of Thrones par rapport à la fantasy épique. Clairement, les univers de fantasy épique type Donjons et Dragons et encore plus Warhammer sont très loin d'être de la fantasy de Bisounours. Hein. C'est des univers extrêmement sombres.
Hein. C'est sang et tripes et boue et...
Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, c'est Félix. Retenez que les titres, ça commence par Tueur 2 et ensuite vous rajoutez la race.
Je tiens à préciser que j'en ai chroniqué quelques-uns pour le site, donc si les gens veulent se faire une idée.
Si vous voulez vous faire une idée, n'hésitez pas à aller voir sur le site. Donc Tueur de Trolls, Tueur de Gobelins, Tueur de Skaven, Tueur de. Voilà. Après,
il y a eu Tueur de Ghouls récemment et Tueur de Geats. Tueur de Geats, et le prochain ce sera Tueur de...
Tueur de Geats, mais qu'est-ce qu'il lui a fait le pauvre
Geats. Geats, c'est le nouveau nom pour Gobelin.
Ça va être compliqué d'animer les podcasts.
Et le prochain, qui dès que je l'aurai, je le chroniquerai, ce sera Tueur d'Elfes, parce qu'il n'y a pas de raison.
Enfin. Et pour avancer un petit peu dans notre débat, est-ce que finalement cette fantaisie, donc à grand tonton, il n'y a pas de raison, est-ce que c'est finalement pas aussi un enfant de la vague nostalgique qui touche un peu tous les produits culturels de ces dernières années? Parce que pour prendre un exemple, on va dériver un petit peu sur la musique, mais je suis un grand fan de Synthwave, qui est un joueur musical, en fait, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, qui est entièrement basé quasiment sur la nostalgie des années 80-90, avec vraiment des sonorités très spécifiques qui vont rappeler cette époque. Donc, c'est beaucoup d'utilisation de clavier, c'est beaucoup d'utilisation de c'est avec un rythme, un beat très particulier, avec vraiment une ambiance au niveau des couleurs également, des albums, des noms des groupes, etc. Ça va être Time Cop 83, Run 84. Vous allez souvent avoir cette imagerie-là, des couchers de soleil sur des fonds orange, rose. Et tout ça, en fait, c'est pour se demander au final si le regain de cette fantasy classique, aujourd'hui, son refus de disparaître, ça ne vient pas aussi du fait d'une certaine nostalgie de plus si jeunes lecteurs, même si on l'a dit avant que cette fantaisie-là, elle permettait aussi l'entrée dans la fantaisie à des jeunes lecteurs, à des nouvelles générations. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, de la part des génération un peu plus ancienne, c'est-à-dire des lecteurs et des lectrices qui auraient grandi avec ces romans de fantasy classique et qui chercheraient finalement un peu de leur passé, un peu de leur enfance, un peu de leur jeunesse en lisant encore ce genre d'histoire, ce genre de livre.
Alors, du coup, je vais prendre la parole, hein, parce que les... personne n'a l'air de vouloir se lancer.
C'est fait pour.
Je peux répondre, je dirais oui, parce que c'est vrai que il y a clairement un aspect nostalgique qui joue. Si je prends par exemple l'univers du jeu de rôle, les financements participatifs qui récoltent des dizaines de milliers d'euros sur des vieilles licences, je pense à RuneQuest, je pense à
Yuden Chronicle,
voilà,
des choses sur Suikoden, ouais.
Et des choses qui parlent aux anciens. Il y a ce côté, on vieillit et on s'aperçoit que l'âge adulte, c'est nul.
C'est nul. Voilà.
Donc, on veut se rappeler de comment on était quand on avait 12 ans. Donc, c'est clairement un petit côté Madeleine Proust qui revient avec le risque d'être déçu. Quelqu'un qui aurait lu La Belgariade à 13 ans, qui le relirait aujourd'hui, risque, c'est pas mon cas, fort heureusement, mais risque d'être déçu. J'ai eu le coup, par exemple, avec les romans Dragonlance. Je me suis dit, ça, c'est pas mal. Et bon, finalement, quand on le relit avec un passif de lecteur et 25 ans de plus dans les dents, on s'aperçoit quand même qu'il y a des défauts. Et il y a ce côté transmission aussi, parce que quand on a des enfants, je pense qu'on a envie que nos enfants nous ressemblent. Donc, on a envie de leur faire découvrir ce que nous, on leur a fait découvrir. Donc, peut-être que plutôt que leur mettre directement, ne serait-ce que Harry Potter dans les mains, ils vont peut-être commencer par lire La Belgariade ou pas. Ou ils vont commencer à jouer à la NES et pas à la PlayStation 5. Donc, il y a peut-être ce biais aussi qui joue beaucoup en disant « Attends, moi j'ai lu ça quand j'avais ton âge, tu vas voir, tu vas adorer, je te l'achète. »
Tiens, est-ce que tu as lu Célestopol ? Ah pardon, je disais mon script.
Tu parles de cet ouvrage noté sur Babelio. Et du coup, tu m'as fait peur, mon fils, c'est malin.
Tu commences par la NES et pas par la PS5.
Oui, voilà. En fait, il y a ce côté de faire découvrir aujourd'hui à nos enfants ce que nous, on a aimé étant petits. Puis il y a aussi ce côté, pouvoir d'achat qu'on a. Donc, on peut se permettre de racheter des choses, par exemple, des ouvrages qu'on avait étant petits, qu'on a perdus entre les déménagements, les reventes, les dons, les prêts qui ne sont pas été rendus, pouvoir les racheter. Donc, encore une fois, ça génère des ventes. Les éditions collector qui marchent bien. Je prends pour exemple Bragelonne, encore, qui fait des éditions collector, par exemple, a fait Légende, a fait Waylander, fait Dragonlance, et qui est magnifique, et qui est édité à quasiment 5000 exemplaires et qui ont été très vite en rupture de stock. Donc ça, c'est clairement des ouvrages destinés à des gens qui ont les moyens, parce que c'est 60 euros le livre, et c'est clairement aussi destiné à des gens qui sont nostalgiques de ces lectures-là qu'ils ont découvert il y a 15 ans, 20 ans, 25 ans.
Oui, autant je peux pas, personnellement, je peux pas juger pour les enfants parce que je n'en ai pas, mais je me dis, oui, effectivement, si La Belgariade et Le Secret de J de Pierre Grimbert ne quitteront jamais ma bibliothèque, mais ils ne seront jamais relus. Ça, c'est une certitude. Parce que je pense très sincèrement que si je relis Pierre Grimbert, je le mets au feu. Les bouquins, pas Grimbert. Hein, on va éviter
c'est un petit peu excessif, quand même.
On va éviter. Déjà, à l'époque, j'avais conscience que c'était plein de clichés, etc. Mais ça m'a amusée, je trouvais que c'était très divertissant, c'était très sympa, etc. Mais je pense que oui, effectivement, après 20 ans plus tard, je pense très sincèrement que ça ne tient plus la route. Et c'est comme Eddings, je ne me revois pas du tout relire La Belgariade ou même la trilogie des joyaux, peut-être. La Belgariade...
Dernière page des rêveurs.
Non, je m'en suis bien débarrassée. Je veux dire, le tri de la bibliothèque du début de l'année, là, parmi les victimes du tri, il y a eu les 4 tomes des rêveurs. Celui-là, par contre...
Mais, t'as peut-être rêvé que t'as trié ta bibliothèque, attention.
Non, je n'ai pas rêvé l'épuisement qui a suivi, et t'inquiète pas. Mais je confirme que c'est effectivement des trucs que j'ai lus au début de mon parcours de lectrice et que je ne relirai plus. Moi, je fais partie de ces gens, effectivement, qui, quand ils lisent la 4e de couverture et qui voient, c'est l'histoire d'un orphelin avec une prophétie, je repose le livre et je ne veux plus en entendre parler. Et ce n'est pas un jugement de valeur, c'est-à-dire que Si c'est ce qui vous fait plaisir, je vous en prie, faites-vous plaisir. C'est juste que moi, ça passe plus du tout après 20 ans de fantasy, quoi, en fait.
Mais ça passe peut-être encore chez AK.
T'as pas lu Le Nom du Vent ?
J'ai lu le premier, j'ai trouvé ça très long. J'ai même pas lu la suite.
Oh, tu ne mérites pas que je continue à parler avec toi.
Bon, je suis d'accord avec AK parce que c'est ma lecture de l'année 2021.
J'ai lu le premier Nom du Vent pour l'aspect musical, en fait. C'était le côté musical derrière qui me parlait, et plus l'écriture. Mais je n'ai jamais lu le tome 2, et je n'ai jamais lu...
Le tome 3 c'est...
J'ai le titre en anglais, mais je ne l'ai pas en français. La musique du silence, voilà, ça y est.
Pour info, hein, le tome 3 n'est toujours pas sorti. Hein,
je ne sais pas si tu es adepte des livres audio.
Non.
Mais moi, personnellement, je l'ai écouté. C'est le premier livre que j'ai écouté sur Audible. Et c'est lu par Nicolas Planchet. Et je pense qu'il faut au moins essayer d'écouter l'extrait gratuit pour voir comment il lit ce roman. C'est juste... on est transporté. Il a totalement compris, je pense, l'esprit du bouquin. Et je pense que ça peut te plaire.
Alors, par contre, moi, je ne sais pas où je trouve le temps d'écouter un livre audio de la taille que fait le...
En rangeant ta bibliothèque.
Je ne vois vraiment pas où j'aurai le temps de faire ça. Mais je te remercie pour le conseil. Ça peut être très intéressant, effectivement. Mais là... je suis déjà complètement à la bourre dans mes podcasts, j'en ai qui s'accumulent, je trouve pas le temps de les écouter. Donc les livres audio, moi, c'est pas possible, je crains. Mais je note le conseil quand même, pour ma retraite.
Effectivement, j'ai la peur du sage là, que je suis en train d'écouter, c'est 20-22 heures.
Ah ouais, non, t'oublies. Tu oublies.
Mais c'est très bien, voilà de la fantasy classique, très bien.
C'est ça, de la fantasy classique, mais ça ne rentre pas en ce qui me concerne dans la fantasy à papa. Et c'est justement ce côté-là, c'est que tu peux avoir une prophétie, tu peux avoir un orphelin, et finalement, Harry Potter s'en est aussi. C'est pas pour ça que la fantasy à papa. Je trouve que il ne faut pas sous-estimer l'orphelin.
ou de plus en plus l'orpheline.
Ou de plus en plus l'orpheline.
Oui, Gilo.
Non, mais encore une fois, c'est pas forcément, comme le disait Safran, c'est pas forcément un jugement de valeur, c'est simplement
des
publics différents, en fait, qui parfois se retrouvent et parfois non.
Mais justement, c'est pas que des publics différents, parce que je conseillerais pas Le Nom du Vent aux mêmes personnes qui je conseillerais la Belle Gaillade.
Oui, d'accord.
Ouais. Parce que c'est pas de la fantaisie à papa, Le Nom du Vin. C'est de la fantaisie classique, mais c'est pas de la fantaisie à papa.
Est-ce qu'au final, il s'agit de deux publics irréconciliables ?
Non. Moi, je suis un public mixte.
Pas irréconciliable, non, je pense pas. Je pense qu'il y a une vraie distinction qui se crée, qui existe. Ben, on le voit rien qu'autour de ce panel ce soir. Hein, il y en a pour qui c'est...
L'alpha et l'oméga.
Exactement, il y en a pour qui c'est l'alpha et l'oméga, et il y en a qui lisent la quatrième de couvre, qui voient ça, qui se disent « Nope, j'ai trop des livres à lire et pas assez de temps dans ma vie, donc ça c'est non. » Ça, pour moi, ça a fait son temps, ça a été une belle porte, ça a été un sacré même portail ouvragé pour entrer dans la fantasy, mais le portail il est fermé maintenant. Donc, je ne pense pas que les publics soient irréconciliables, mais il peut y avoir je pense qu'il y a une espèce de diagramme où l'amateur, le fan mixte, comme disait Aka, se retrouve, mais que ce n'est quand même pas la majorité des gens.
Je peux ressortir encore un autre contre-exemple, type Le Nom du Vent, que je trouve pas mal, c'est Plateau. Plateau, tu as un orphelin qui est Manèche.
Stéphane Plateau.
Oui, Stéphane Plateau, donc le...
Manèche.
Ouais, le Manèche, c'est le premier tome.
Alors, Jaunes Yeux, mais qui doit être le tome 3 ou 7.
Les solaires, le cycle des astres ou quelque chose comme ça.
Le sentier des astres.
Le sentier des astres, merci beaucoup. C'est clairement un pitch qui pourrait faire peur et ça n'a rien à voir avec de la fantaisie à papa.
Oui, non mais tout à fait.
Pour moi, en ayant lu le pitch, je me suis jamais dit que c'était de la fantaisie à papa. Je me suis dit, d'ailleurs, au contraire, qu'on était plus proche. En fait, ça sonnait plus proche comme de la fantaisie, j'allais dire, Holstockienne, enfin, un peu de à la forêt des Mitago de Robert Hossock. Donc, qui est, pour ceux qui ne l'auraient pas lu parmi nos auditeurs, vraiment une antithèse de la fantasy à papa, puisqu'on est sur une histoire centrée autour d'une forêt et qui fait revivre en fait tous les mythes et les histoires créées par l'humanité.
Cela dit, il y a beaucoup de forêts dans la fantasy à papa.
Cela dit, il y a beaucoup de forêts, effectivement.
Alors, peuplé de monstres.
Oui. Alors, si vous aimez les forêts, effectivement, vous pouvez lire la forêt des Mitago. Par contre, il faut pas vous attendre à des nains, il faut pas vous attendre à de la guerre, c'est autre chose.
C'est sûr.
C'est autre chose. Mais c'est une très belle lecture. Je t'ai coupé, Aka, d'ailleurs, sur...
Non, j'avais dit à peu près ce que je voulais dire, c'est que je pense que il y a ces stéréotypes qu'on voit dans la fantaisie à papa classiquement, qui sont typiquement l'orphelin et la quête. On les retrouve, alors pas forcément les deux en même temps, mais on les retrouve dans beaucoup de livres qui ne sont pas du tout classés fantasy à papa et qui sont tout à fait plus grand public ou plus pour un lectorat peut-être plus mature, comme tu veux le souligner, Saffron. Et je pense que il y a la fantasy à papa est aussi reliée à un imaginaire très 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 précis qui finalement est et la high fantasy à la Donjons et Dragons, quoi.
Oui, et puis en tant que fan de fantasy, je pense que c'est une base qu'il faut avoir, pour le coup. Je ne suis pas du genre à dire « il faut faire ci, il faut faire ça », mais c'est vrai que se lancer en fantasy sans avoir cette base, ce qu'on va appeler la base Donjons et Dragons, je trouve ça un peu triste, quoi. Pour moi, il faut au moins l'avoir, même si tu commences pas par là, voilà, il faut le faire à un moment donné, parce que ça pose les codes, effectivement. Ça pose de sacrés codes, quand même.
Si t'as pas ces fondations-là, tu apprécieras moins ce qui se fait aujourd'hui.
Oui. C'est ça que je veux sous-entendre. Comme
il y a certains auteurs qui se construisent justement en opposition par rapport à ce qui s'est fait avant. Ça me rappelle la querelle des classiques et des modernes. Voilà, on va se battre et tout pour savoir qui a raison. Effectivement, c'est, comme tu dis, c'est une espèce de milestone, je ne sais plus comment on dit en France, de borne à passer en disant, voilà, j'en ai lu 2-3. On vous dit pas d'en lire 50, hein. Attention. Hein. Enfin, si, moi, je vous dis d'en lire 50 à titre personnel, mais bon, voilà. Mais si on n'en a pas lu un ou deux qu'on peut considérer comme des grands classiques, et c'est vrai que pour ça, je trouve que la Belgariade, chez les jeunes, ça passe super bien. On peut avoir des... Je n'ai pas peur des mots, on va dire un manque dans la... On va dire, pas dans la culture, mais dans la connaissance, on va dire, du genre.
Je suis d'accord.
Je pense que Gilo va me sauter à la gorge, là.
Non, c'est pas par rapport à ce que tu as dit, toi. C'est juste que, j'ai un peu de mal. Alors, attention, je vais pousser l'exemple à l'extrême. Je ne suis pas en train de comparer le premier élément que je vais citer à la fantasy à papa. Hein. et ce côté, tu vois, tu n'as pas besoin de manger du caca pour savoir que le chocolat, c'est bon. Donc...
Alors, je pense que ça va être par titre. La comparaison, mon bon monsieur.
Ça va être le titre ou le sous-titre de ce podcast.
Ouais, ça, je ne comparais pas, hein, mais
La fantasy à papa, c'est caca, c'est ça le titre.
Non, c'est pas ce qu'on a dit.
C'est pas ce que je voulais dire exactement.
En tout cas, je le trouve très. Très putaclic, hein, quand même. Si tu veux générer du trafic, tu peux y aller.
Au moins, l'image est claire.
Non, après, oui, la comparaison est forte, mais elle est pas fausse dans un sens. Hein, mais tu me retireras pas de l'idée. Et là, encore une fois, je prêche pour ma paroisse, parce que, au cas où vous l'auriez encore pas compris, pour moi, c'est le genre phare. Si t'as pas ça, je pense que tu passes à côté de quelque chose quand même.
Non, bien sûr, mais après voilà, tu peux faire. Tu trouveras toujours des œuvres que moi je conseillerais davantage que mettons les Faced. Mais après voilà, on va pas se lancer.
Oui, non, mais non, voilà, je pense qu'on s'est pas compris. Je dis pas qu'il faut lire Faced. Même si j'aime bien Pug, moi ça me fait rire. Mais bref, mais par exemple. Je vais prendre un cas très concret. Si j'ai un gamin qui rentre dans le CDI à 15 ans pour me dire oh, j'ai lu la BD des elfes, c'est trop bien, vous avez autre chose. Je vais peut-être lui tendre le premier tome en poche de la Belgariade, qui n'est pas très épais, etc.
Et qui est nul.
Bien sûr, enfin, que je vais pas dire, lui filer du Shannara direct. Mais voilà, pour lui dire, voilà, il y a ça. Ça te plaît pas. Et après, je ne vais pas le bombarder. Ou peut-être un David Gemmell.
Ah voilà. Oui, mais encore Gemmell, tu vois, quand tu vois. Enfin, on va pas repartir en arrière, mais quand tu vois la place des femmes chez Gemmell, etc., c'est pas forcément ce que tu imagines pour la fantasy. Parfois, il a des.
80.
Ouais, voilà. Mais bon, voilà, on aurait pu en parler.
Oui, mais il faut remettre les choses dans leur contexte aussi. Voilà, c'est la fantasy des années 80. C'est la fantasy des années 80. C'était les fameuses tenues de j'allais dire de Xena la guerrière. Mais non, Xena la guerrière, elle est couverte.
Je
ne
suis pas sûr que c'est ce que Gillot voulait dire.
Non, parce que chez Gemmell, je trouve au contraire qu'il a souvent des persos féminins plutôt mieux construits que ce qu'on trouvait.
Ah d'accord, ok.
Bah, même dans la fantasy à papa en général, les personnages féminins sont parfois majeurs et au premier plan. Je prends par exemple, on parle beaucoup d'Edding, je prends Paul Gara, c'est pas une faible femme.
Non, c'est pas n'importe qui comme personnage, oui, c'est sûr.
Après, oui, il y a des biais de société de l'époque, mais je pense, on peut pas non plus calquer nos problématiques actuelles sur ce qui s'est fait il y a 50 ans.
Non.
Ça, c'est... Non, pas, aucun commentaire.
En tout cas, le constat, c'est que les publics ne sont pas irréconciliables, donc ma foi, c'est...
C'est ça.
Donc, lisez de la fantasy épique, mais lisez aussi autre chose.
C'est ça, lisez de tout. Et surtout, lisez ce que vous voulez.
Et surtout, de la fantasy épique.
Surtout, lisez ce que vous voulez, en fait. Voilà, c'est ça.
Je pense que c'est une bonne conclusion.
C'est une excellente conclusion.
Et si vous n'en avez jamais lu, il y a plein de chroniques sur le site qui vous donneront quelques pistes du genre et, on va dire, des incontournables.
Vous avez effectivement de quoi faire. En tout cas, on vous remercie d'être allé jusqu'au bout de cette émission. Si vous voulez nous suivre, n'hésitez pas. Je m'adresse à nos auditeurs. N'hésitez pas à nous suivre également sur les différents réseaux sociaux. Si vous voulez également faire un don pour nous aider à maintenir cette émission à flot, pour nous aider à maintenir le site à flot, vous pouvez tout à fait
aider tous les orphelins de la fantaisie.
Exactement. vous pouvez nous laisser un don, nous faire un don sur la plateforme Hello Asso, dont le lien se trouve sur la page d'accueil du site elbacking.net. Voilà. Merci à toutes et à tous. Je parle
à tes camarades,
à vous, à mes camarades, exactement. Je cherchais le terme pour cette émission.
Il est un peu tard,
donc là on a hâte d'aller se coucher, mais en tout cas on espère que l'émission vous a plu. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur le forum, ça nous fait toujours très plaisir de discuter de tout ça avec vous, et on vous dit rendez-vous au prochain épisode. Salut tout le monde,
à la prochaine.
Merci à tous, salut,
ciao,
salut.
À moi l'aventurière qui doit sauver le monde.